Chapitre 18. Quelques jours plus tard, M. de Trézonne m'offrit la corbeille qu'il avait choisie à Paris. Sur ma demande, il ne l'avait pas fait porter chez moi, ma vieille demeure ne me semblant pas assez sûre pour enfermer ces objets qui représentaient une véritable fortune. Car il s'était montré d'une générosité superbe. Dans le salon où il m'avait conduite, je regardais avec émerveillement ces splendeurs que je n'avais jamais contemplées qu'en rêve. Un ardent soleil d'été, se glissant entre les volets mi-clos, caressait les fourrures, les dentelles, faisait fulgurer les diamants, rubis, émeraudes, admirablement sertis. Deux éventails, l'un ancien, l'autre en point d'argentan à monture en diamanté, reposaient dans leurs écrins de satin blanc. Je murmurais « Oh, Guy, merci! Mais c'est infiniment trop! Je ne suis pas habituée à être gâtée ainsi !» C'est une chose à laquelle on s'habitue facilement. Ainsi, tout cela vous plaît ? Oh, je crois bien ! J'allais d'un objet à l'autre en exprimant mon admiration. Il me suivait des yeux. Puis il prit une fourrure et l'approcha de mon visage. Oui, cela vous va très bien, comme je le pensais. Qu'est-ce, Guy ? Du renard argenté. Oh, mais c'est une folie ! Tout un vêtement comme cela ! « Je n'oserais jamais le porter. » Il dit avec calme. « Pour qui voulez-vous que je fasse des folies, si ce n'est pour vous ?» Il avait de nouveau son regard passionné et je cachai le mien sous mes paupières tremblantes. D'un geste machinal, je posai sur une table l'écrin que je tenais à la main. Guy jeta la fourrure sur un siège et demanda « Voulez-vous que je vous montre mon cabinet de travail, qui est le lieu où je me tiens de préférence ?» Sur mon acquiescement, il ouvrit une porte et me fit entrer dans une longue pièce à quatre fenêtres, tendue de tapisseries anciennes. Des meubles de la Renaissance, des ivoires, des émaux, merveilles d'artistes d'autrefois, et quelques tableaux de vieux maîtres faisaient de cette pièce une sorte de musée d'un goût sobre et magnifique. Je dis spontanément « Oh, que j'aime cela !» Je m'avançai jusqu'à une fenêtre. Là s'étendait une terrasse d'où l'on découvrait les jardins et le parc. Le soleil se retirait de cette façade et l'ombre y était douce, parfumée, apaisante. Je dis à mi-voix « Qu'il fait bon !» Il était près de moi, un peu penché, car je sentais son souffle sur mon front. J'eus l'impression que ses lèvres s'approchaient, qu'elles allaient me toucher, et je n'osais reculer. Je songeais avec un mélange d'angoisse et de joie « Il en a un peu le droit. Dans 3 jours, il sera mon mari. » Mais il se redressa sans que sa bouche m'eût effleuré, et il dit de sa même voix tranquille « Cette façade du château est la plus agréable. Mon appartement s'y trouve, là, au-dessus, et aussi une partie du vôtre. » Je murmurai « Ah oui !» Je n'étais pas encore remise de mon émotion. Et tout au fond du cœur, j'avais la sensation d'une petite souffrance, d'une déception. M. de Trézonne me montra quelques objets plus particulièrement précieux en m'en expliquant les origines. Sur son bureau, je remarquai la photographie de sa mère près de la mienne. Voyant que je me penchais pour la regarder, il la prit et me la présenta. « Comme elle a l'air douce et bon !» songeai-je tout haut. Oui, c'était une femme exquise. Je l'ai bien peu connue, mais le souvenir que j'en ai gardé est vivace et profond. Il s'interrompit pendant un court instant et ajouta, d'une voix subitement durcie, « Il y a 2 choses que je n'ai jamais pu pardonner à mon père. C'est d'avoir fait souffrir ma mère et de l'avoir remplacée à son foyer par cette marionnette sans cervelle. » Il leva les épaules et fit quelques pas à travers la pièce. Puis il revint à moi et se pencha pour regarder la photographie. « Voyez comme elle avait de beaux yeux, presque aussi beaux que les vôtres, Gillette !» Le cadre délicatement ciselé trembla un peu entre mes doigts. De nouveau, mon visage s'empourprait. M. de Trézonne laissa échapper un rire légèrement ironique. « Allons, il faut bien que je vous fasse un compliment. Comme vous rougissez vite !» Les jeunes filles ne rougissent plus aujourd'hui, sachez-le, ma chère Gillette. Mais j'aime beaucoup que vous ne soyez pas de celles-là. Se moquait-il de moi ou parlait-il sérieusement? Je posai le cadre sur le bureau et fis un pas en arrière. Mais il m'arrêta du geste. « Veuillez m'accorder un instant d'attention. J'ai une demande à vous adresser. Au point où nous en sommes maintenant, j'espère qu'elle ne vous paraîtra pas trop indiscrète. Aviez-vous été demandé en mariage avant de me connaître ?»«
Oui, à l'Argilet. » »«
Ah, et vous avez refusé ?» En quelques mots, je lui expliquai que ma ruine était survenue avant que j'eusse rendu la réponse au docteur Bordet. Mais quelle aurait été cette réponse ?
Une acceptation, probablement.
Il dit avec une sorte de dureté : Vous l'aimiez ?
Je secouai la tête.
Non, je me rends bien compte maintenant que je n'aurais pu l'aimer, du moins vraiment, profondément. C'était une nature agréable, mais superficielle. Il n'aurait pas été un guide, un conseiller pour moi. Je me tus, confuse des paroles que je venais de prononcer. Mais M. de Trézonne ne les releva pas. Il semblait suivre une autre idée. Du même ton bref et dur, il demanda « Vous n'avez jamais aimé ?»«
Jamais.
Et moi, m'aimez-vous ?» Cette fois, ce fut une véritable chaleur de fournaise qui me monta aux joues. Et je restai muette, n'osant le regarder. Il dit brusquement « Non, ne me répondez pas. Je vous demanderai cela plus tard. Maintenant, venez. » Nous allons faire une promenade dans le parc avant le thé. » Je balbutiai.
« Je vous prie de m'excuser, mais je suis un peu fatiguée. »
En ce cas, asseyons-nous dehors. L'air s'élève, il fait très bon en ce moment. » Je le suivis et nous prîmes place sur un banc près de la grande pelouse centrale. De là, toute la façade du château s'étendait devant nous. Jacqueline, au seuil d'une porte, lutinait les lévriers de son frère. Je fis observer pour dire quelque chose, car M. de Trézonne restait silencieux.
« Jacqueline a mauvaise mine depuis quelque temps, ne trouvez-vous pas ?»«
En effet, mais cela passera. » Je levai les yeux vers lui. Peut-être il eut-il le reproche que je formulais secrètement, car il demanda « Vous me trouvez dure à son égard, Gilette ?»«
Oui, c'est vrai. »
Je n'ai pas d'affection pour elle, ni pour son frère et sa sœur. Je les ai toujours traités en étrangers, parce que je savais qu'à l'exemple de leur mère, ils ne considéraient en moi que la fortune, devant laquelle ils s'inclinent bassement. L'or que je leur donne, que je puis leur donner, voilà tout ce qu'ils aiment en moi. » Sa bouche eut un pli d'amer dédain. Je protestai.
« Non, je vous assure que Jacqueline vaut mieux que cela. Elle a un fond de franchise et elle est susceptible d'affection. Je crois qu'elle se serait attachée à vous si vous aviez voulu le lui permettre.
Sa mère vous a chargé de plaider sa cause auprès de moi ?» La question, faite à brûle-pourpoint, me saisit d'abord. Mais je me repris aussitôt et répliquai, en le regardant bien en face.
« Oui, elle a voulu m'en charger, mais j'ai refusé. Il ne me convenait pas à moi que vous preniez pauvre de m'immiscer dans des questions de ce genre. » J'ai essayé de le faire comprendre à Madame de Trézonne, mais je ne crois pas y être parvenu. En tout cas, Guy, je ne veux pas que vous voyiez, dans mes paroles, autre chose qu'un jugement sincère et sans arrière-pensée sur votre sœur, que j'aime beaucoup.
Je vous assure, Gilette, que je n'aurais pas été froissée de votre intervention sans faveur. Votre délicatesse me plaît, elle est un charme de plus chez vous. Mais quand nous serons mariés, ne me faites pas l'injure de me prendre pour un goujat qui rappellerait à sa femme que la fortune vient de lui, comme si tout ne devenait pas commun entre époux. Et si vous désirez que j'augmente la dot de Jacqueline, celle-ci vous étant sympathique, dites-le moi simplement. » Un peu stupéfaite, je murmurai
« Mais Guy, certainement, j'en serais heureuse. Elle aime M. de Subrenne et elle souffre. »
« Soit, cette affaire sera réglée après notre mariage. Vous pouvez dès maintenant donner un espoir à ma sœur, cela l'aidera à patienter. » Je dis avec reconnaissance
« Oh, Guy, comment vous remercier ? Jacqueline sera si heureuse !»«
Je ne le fais pas pour Jacqueline, mais pour vous. » Je lui tendis la main en répliquant
« Eh bien, je vous remercie pour elle et pour moi. »
Il se pencha et appuya ses lèvres sur mes doigts. Puis, en se redressant, il dit avec calme « Allons maintenant prendre le thé, si vous le voulez bien, Gilette. »
et maintenant j'étais arrivé au jour redouté. Debout au milieu de ma chambre, je laissai Jacqueline et une femme de chambre de la Bottellerie tourner autour de moi, arranger ma traîne, mon voile. Je pensais, bientôt ce sera fini, j'aurai promis pour la vie. Je regardais autour de moi ces murs, ces meubles, tout ce que j'allais quitter pour suivre Guy de Trézonne dans les bons et les mauvais jours. Elle était bien vieille, bien triste, ma pauvre maison, mais elle avait été un bon refuge pour ma pauvreté, j'y avais paisiblement vécu ces quelques mois, et c'était pour l'inconnu que je l'abandonnais. Dans le salon m'attendaient Guy, Madame de Trézonne et ses enfants, puis M. Rouchaine, qui devait me conduire à l'hôtel, et quelques amis intimes des châtelains. Une automobile, toute garnie de fleurs blanches, m'emmena vers l'église. Le curé, à peine remis de violents accès de fièvre, avait tenu néanmoins à officier. Un bénédictin, cousin de Guy, prononça une allocution qui m'émut beaucoup. Je promis à Dieu, du fond du cœur, de me montrer une épouse dévouée et de ne rien négliger de mes devoirs. Si seulement il avait été moins énigmatique, ce Guy. Par moments, il me semblait qu'il m'aimait beaucoup. À d'autres, il devenait froid. Enfin, peut-être qu'en le connaissant mieux, je ferai d'heureuses découvertes. L'assistance débordait hors de l'église et, quand je sortis au bras de Guy, je fus la cible de tous les regards. Quelques réflexions louangeuses arrivèrent jusqu'à moi. Je souriais pour remercier ces braves gens. Mon miroir et les exclamations enthousiastes de Jacqueline m'avaient déjà démontré que cette toilette blanche me seyait à merveille. Et le regard dont m'avait accueilli M. de Trézonne à mon entrée dans le salon avait achevé de m'en convaincre. Quand nous fûmes seuls dans la voiture qui nous emmenait vers le château, il me prit la main et me considéra longuement sans rien dire. Gêné, très ému, j'attachais un regard vague sur les fleurs placées devant moi. Il dit enfin, à mi-voix, « Merci, Gilette, d'être si jolie !» Je tournai la tête et le regardai en souriant timidement. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, Guy, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Vous avez au moins le mérite de ne pas vous en laidir en adoptant à tort et à travers toutes les modes, fussent-elles baroques à souhait. Votre goût est exquis. Ma robe vous plaît ?» Beaucoup, mais sur une autre, elle n'aurait pas la moitié de cette élégance, de cette allure harmonieuse. Vous êtes très jolie, Gilette, et infiniment séduisante. Continuez à n'en pas tirer vanité et faites de ces dons du ciel la parure de votre foyer. Il acheva, après une courte hésitation, et la joie de votre mari. Je frissonnais un peu, un bonheur craintif encore me pénétrait. Je ne pouvais détourner mes yeux des siens, qui étaient si ardents, qui les retenaient, les éblouissaient. Il mit sa main sur mon épaule en murmurant « Gilette, j'aime vos yeux !» Puis il se tut et resta immobile, me regardant, pendant les 5 minutes qui s'écoulèrent, jusqu'au moment où la voiture stoppa devant le château. Alors, ce fut la grande réception, le déjeuner superbement servi, puis le bal dans les salons que nous ouvrîmes Guy et moi. Vers 6 heures seulement, nos hôtes quittèrent la Bottellerie. Mon mari me conduisit jusqu'à mon appartement, où se tenait à ma disposition une femme de chambre, et m'y laissa en disant « Je vous attendrai dans mon cabinet ». Nous ne devions partir pour notre voyage en Norvège que le lendemain. Ce soir, nous dînerions seuls dans l'appartement de Guy. La femme de chambre me demanda « Quelle robe désire mettre madame ?» Je jetai un coup d'œil sur les toilettes que je m'étais fait faire à Niort. Cette blanche était charmante, mais l'autre, d'un si délicat mauve rosé, était bien jolie également. Si j'avais pu connaître le goût de mon mari, il me semblait qu'il aimerait celle-ci, d'une ligne très élégante, avec de gracieux ornements de dentelle. « Je mettrai la mauve, Julia !» Un quart d'heure plus tard, j'entrai dans le cabinet de Guy. La pièce était déserte. Mais en avançant jusqu'à la fenêtre, je vis mon mari debout sur la terrasse. Il ne m'avait pas entendu. J'allai jusqu'à lui et lui touchai le bras. Il eut un léger sursaut. « Ah, pardon !» Puis il me regarda en silence un long moment. Devant nous, les jardins s'étendaient dans la paix de cette journée finissante. La lumière s'évadait lentement. Le ciel se teintait de lilas et de roses pâles. Guy murmura « C'est encore une robe couleur du temps que vous avez là. » Je demandai d'une voix un peu tremblante « Vous la trouvez bien ?» Il ne répondit pas et détourna son regard. Puis il ramena vers moi, me prit la main et la pressa contre ses lèvres. « Gilette, j'ai bien compris que vous aviez peur de moi. Et moi, j'ai peur de vous. »«
Oh, Guy !»
Il continua sans paraître m'entendre, d'une voix basse et frémissante. « Je vous ai aimé depuis que je vous ai vue dans la salle de la Meulière. Vous étiez ravissante dans votre tâche de ménagère, et puis il y avait tant de franchise, tant de pensées pures et courageuses dans vos beaux yeux. Je vous ai aimé toujours davantage à chacune de mes rencontres avec vous, et j'ai décidé que vous deviendriez ma femme. Mais je suis un orgueilleux et insensible. Vous ne m'auriez pas imaginé ainsi. C'est que je me suis cuirassé sous la froideur, sous la dureté apparente, par crainte des chocs. Et voilà pourquoi j'ai peur de ce que je ne connais pas en vous, des désillusions que vous pourriez me donner. Je sais que vous m'aimez, mais il y a tant de sortes d'amour. Je voudrais que le vôtre fût très tendre, très confiant et qu'il ne s'affaiblît jamais. Je n'ignore pas que je demande là une chose presque impossible. Mais si vous vouliez essayer, Gilette, si vous vouliez me donner votre cœur tout entier, comme je souhaite vous donner le mien, je répondis à demi-voix, d'un ton étouffé par l'émotion. « Oh, Guy, pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela plus tôt ? Pourquoi m'avez-vous laissé souffrir dans l'incertitude de vos sentiments, moi qui ne désirais qu'une chose, vous aimer et être aimé ainsi ?» Son bras m'entoura, me rapprocha de lui et ma tête se reposa sur son épaule. « Pardon, mon amour, je vous le répète, je suis un orgueilleux. Ces paroles que je viens de vous dire me semblaient dures à prononcer car elles sont un aveu de ma faiblesse d'homme devant votre puissance de femme. Je me suis raidi longtemps, je les ai retenues plus d'une fois sur mes lèvres, mais il fallait qu'elles fussent dites, et aujourd'hui cela m'a semblé très facile. Quelle tendresse brûlante, profonde, je voyais dans ses yeux. Un bonheur enivrant me pénétrait, je ne savais plus bien si j'étais dans la vie réelle ou si je rêvais. Il demanda « Dites-moi que vous avez confiance en moi, que vous ne me craindrez plus. »
« Oh, mon cher Guy, je vous aime tant !»
Il baisa mes paupières en murmurant. « Ils me le disent, vos beaux yeux, vos chers yeux noirs. Oui, aimez-moi, Gilette, je saurai vous le rendre, vous faire la plus heureuse des femmes. » Je dis tout bas. « Oh, comme il avait raison, notre vieil ami, comme on ne vous connaît pas !» Le chagrin est souvent proche de la joie. Comme je finissais de m'habiller, le lendemain matin, je vis entrer Guy, dont la physionomie attristée me frappa aussitôt. Il me dit « Le domestique de la Sauvée me fait prévenir que le pauvre père Rouchaine est très malade. Il l'a trouvé respirant à peine. J'y vais à l'instant. »
« Oh, notre pauvre ami, il semblait très fatigué hier. Peut-être s'est-il forcé pour ne pas manquer de me conduire à l'hôtel ?» « Je vous accompagne, Guy. Attendez-moi 5 minutes, le temps de mettre mon chapeau. »
Un quart d'heure plus tard, nous étions à la Sauvée. Le médecin en sortait. Il répondit à la question de Guy. « Il s'en va, c'est le cœur qui lâche. » Le vieillard était étendu dans son petit lit de fer. Le soleil arrivait jusqu'à lui, chauffait ses mains, qu'il joignait en écoutant le curé qui lui parlait à mi-voix. Les yeux tranquilles, à notre vue, s'éclairèrent dans le doux visage ridé, un peu blêmi. Le prêtre se retira et nous nous penchâmes vers le mourant. Guy dit avec douceur « Nous voici, mon vieil ami, nous venons vous soigner, vous guérir. »
« Non, pas guérir, mais je pars content. Je vous ai vus mariés, tous deux. »
Sa main chercha la mienne et quand il l'atteint, il attacha sur moi son regard qui se voilait.
« Vous étiez la plus jolie mariée. Lui est très bon, vous verrez. Il faut l'aimer beaucoup. Personne n'a su l'aimer comme il voudrait. »
Guy dit avec émotion « Si, vous, mon ami. » Un sourire détendit les lèvres pâles. Le regard s'éclaira de nouveau pendant quelques secondes en se fixant sur mon mari. Le vieillard voulut parler encore, mais les mots restèrent indistincts. Alors il se tut. Le prêtre se rapprocha et tous trois, en priant, nous assistâmes à l'agonie tranquille, silencieuse et chrétienne, comme la vie qu'elle terminait. Guy ferma les yeux du vieillard et nous baisâmes tous deux son front. Puis, tandis que mon mari et le domestique procédaient à la toilette funèbre, j'allai cueillir toutes les fleurs du jardin pour en couvrir le lit mortuaire. Il les avait tant aimées, ces fleurs, le cher vieillard! Elles avaient été une des petites joies de sa vie solitaire, de sa belle vie simple et digne d'honnête homme, de brave homme, à laquelle tout le village rendit hommage ce jour-là et le lendemain, en défilant devant ses restes mortels. M. Rouchel n'avait plus de parents. Ce fut Guy qui conduisit le deuil avec le maire de Saint-Jean. Puis, le soir, nous quittâmes la Bottellerie pour commencer notre voyage de noces. Auparavant, le notaire nous avait informé que le défunt léguait à Guy la Sauvée et à moi les broderies de sa femme. Dernier souvenir, dernière preuve d'affection d'un ami très cher à mon mari et auquel je m'étais attaché profondément en ces quelques mois. Plus d'une fois, au cours de notre voyage, au milieu de notre bonheur, nous évoquâmes son cher bon visage, ses yeux doux et pensifs. Et nous disions « Comme ce sera triste de ne plus le retrouver là-bas quand nous reviendrons !» Un matin de février, un peu plus de 2 ans après notre mariage, je finissais d'écrire une lettre dans mon petit salon du vieil hôtel de Trézonne, à Paris, où nous passions 3 mois de l'hiver, quand un domestique vint m'informer que Catherine Bardôme me demandait. Je m'exclamai. « Catherine, à Paris? Oui, faites-la entrer, Anselme !» Et je me levai pour aller au-devant de la visiteuse, mais je retins un cri devant ce pauvre visage bouleversé, méconnaissable. « Qu'avez-vous, Catherine? Qu'est-il arrivé ?» Elle dit entre 2 sanglots, tandis que je lui prenais les mains. « C'est Angélina! Elle m'a fait écrire qu'elle était très malade, à l'hôpital, que ce serait bientôt la fin. Alors je suis venue. Bardôme ne pouvait pas, rapport à ses douleurs de reins. Il m'a dit « Tu iras voir Monsieur le Vicomte et Madame Gillette. Ils t'accueilleront, bien sûr, et ils t'aideront, ma pauvre vieille. » « Je crois bien. Asseyez-vous, pauvre Catherine. Voyons, ne vous désolez pas tant. Elle pourra peut-être bien guérir. Qu'a-t-elle donc ?»« Elle dit que c'est la poitrine. Ah, si elle était restée chez nous !»« Mais non, ça se croyait plus fort que tout. Pensez qu'elle ne nous écrivait plus, madame !» Savoir quelle vie elle a menée depuis ce temps-là. Un hasard m'avait renseigné à ce sujet l'année précédente, mais je me gardais de le dire à la pauvre mère. Son chagrin était déjà assez lourd, et je ne songeais qu'à l'alléger autant que je le pouvais. Après en avoir informé mon mari, j'accompagnais Catherine à l'hôpital. Une infirmière à la mine délurée nous indiqua le lit où agonisait Angélina, car elle en était à ses derniers moments. Je n'eus que le temps d'aller chercher le prêtre, tandis que la mère, penchée sur la mourante, gémissait tout bas. « Oh, ma petite, dis que tu nous aimes toujours, dis que tu veux revenir à la Meulière !» Angélina avait toute sa connaissance, mais elle parlait difficilement à cause de l'oppression terrible. Cependant, elle put dire « Maman, je regrette bien, je suis une malheureuse !» Puis, un peu plus tard, « Pourquoi m'avez-vous laissé faire ce que je voulais ?» Après cela, elle ne parla plus. Ses doigts serraient le crucifix que j'y avais glissé, son regard s'attachait sur moi avec une expression de souffrance et de désespoir. Sans doute, se souvenait-elle de sa jalousie haineuse, qui n'était peut-être pas morte d'ailleurs. Alors je m'approchai, je pris mes bras sous la pauvre tête amaigrie et je lui dis les paroles consolatrices qui se répètent depuis tant de siècles, qui apaisent les rancunes, les remords, la souffrance. Le visage ravagé, où nul n'aurait reconnu la fraîche figure de l'Angélina de la Meulière, se détendait peu à peu, le regard s'adoucissait et semblait dire « C'est fini, la haine, c'est fini !» Angélina mourut ainsi, repentante, calme et pardonnée, entre les bras de sa mère et de celle qu'elle avait tant détestée dans sa courte vie terrestre. Je ramenai chez moi la pauvre Catherine qui répétait « C'est notre faute, c'est nous qui l'avons mal élevée !» Après l'avoir confié à ma femme de chambre, qui était sa nièce, j'allai chercher mon petit Robert pour lui donner son repas. Cela fait, je me mis à travailler pendant que le bébé s'endormait près de moi. Guy, rentrant d'une course, nous trouva là toutes deux un peu plus tard. Je lui racontai aussitôt ma visite à l'hôpital. Il dit avec pitié « Ces pauvres bardômes, quelle leçon !» J'avais prévu depuis longtemps que la coquetterie de cette malheureuse fille la dirigerait hors de la bonne voie. Il s'était assis près de moi et, tout en parlant, faisait glisser une de mes bagues qui ornait mes doigts. Je dis, en appuyant ma tête sur son épaule, « Vous doutez-vous, amie chérie, que sans cette pauvre Angélina, je ne serais peut-être pas votre femme, votre heureuse femme ?» Je lui narrai alors la petite scène qui avait eu lieu entre elle et moi, comme je sortais de la sauver après la demande en mariage du vicomte de Trézonne. Si j'avais réfléchi plus longtemps, Guy, peut-être n'aurais-je pu me décider, en dépit de mon amour pour vous, car j'avais peur. Et d'autres avaient peur aussi, les Bardômes, Madame Mossette. « Oh, mon cher Guy, je crois bien qu'on vous prenait pour une sorte de barbe bleue. » Il sourit de ce beau sourire que je ne lui connaissais pas avant notre mariage et qui était si séduisant sur sa physionomie hautaine. « Et maintenant, Gilette ?»« Maintenant, on voit que je ne suis pas trop malheureuse et on se dit qu'après tout, il n'est peut-être pas si mauvais diable, ce terrible vicomte de Trézonne. » D'un geste doux, sa main caressa mes cheveux longuement. Autour de nous, le crépuscule se répandait dans la pièce tiède et fleurie. La pluie cinglait les vitres en petites rafales légères. Guy fit observer en montrant ma robe. « Décidément, chérie, vous aimez à vous mettre toujours couleur du temps. »« Oui, elle est grise comme le ciel d'hiver, grise comme la vie. »« Il y a quelquefois un peu de bleu dans la vie, Gilette. » J'appuyai mon front contre son visage en disant tout bas « Oui, près de vous ».